It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour, je suis Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Une riche hôtelière de 76 ans enlevée en plein jour et en pleine rue. Une demande de rançon qui oublie de préciser le montant. Des ravisseurs qui tombent nez à nez avec la police. L'affaire Jacqueline Vérac est digne d'un scénario de film qui aurait pour décor des restaurants luxueux de la Côte d'Azur. 14 accusés sont jugés dans ce dossier devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes tout au long du mois de janvier. Damien Delceni, chef du service police-justice du Parisien, revient sur cette enquête 4 ans après les faits. Damien Delceni, à l'époque, l'enlèvement de Jacqueline Vérac avait fait beaucoup de bruit. Aujourd'hui, elle a 80 ans. Est-ce que cet épisode a bouleversé sa vie ?
À son conteste, à double titre, d'abord parce qu'elle a vécu une épreuve très difficile. Toute la publicité qui a été faite autour d'elle de cette affaire, forcément, l'a un peu dérangée parce que c'est une femme qui voulait absolument rester dans l'ombre, totalement discrète. Donc elle a été perturbée et sans doute traumatisée à double titre, oui.
On va revenir en détail avec vous sur ce fait divers retentissant. Il y a 4 ans, le 24 octobre 2016, vers midi, Jacqueline Vérac sort de son garage. On est en plein cœur de Nice.
Oui, on est vraiment en plein centre de Nice. On est vers l'avenue Gambetta. On est vraiment dans un secteur très urbanisé, très passant. Elle habite en fait devant une espèce de petit parc. C'est une résidence assez cossue, mais c'est pas non plus l'ultra luxe. Et en fait, Jacqueline Vérac, ce matin-là, elle l'a fait comme d'habitude. Elle est allée au coin de sa rue à la pharmacie chercher ses médicaments. Et puis là, au moment où elle revient, en fait, elle passe derrière son immeuble pour aller récupérer sa voiture qui se trouve dans un box. Elle récupère sa voiture, elle la sort du box et c'est au moment où elle sort du box qu'elle est attaquée.
Elle n'a même pas le temps de résister.
Ça prend quelques secondes, elle est au volant de sa voiture, deux hommes surgissent, elle entend vaguement une voiture qui s'arrête, qui freine un peu violemment, et tout de suite deux hommes la saisissent et la chargent à l'arrière d'une fourgonnette sans ménagement. Il faut que ça aille vite pour eux, donc ils le font de manière assez violente. Elle est très très vite bâillonnée, les membres sont attachés, les poignets, les chevilles, et elle est jetée à l'arrière de cette fourgonnette. Ça prend une vingtaine de secondes peut-être maximum.
Et est-ce que des témoins voient cette scène ?
Il y a effectivement une factrice qui se trouve pas très très loin du lieu des faits, à quelques dizaines de mètres, et qui est le témoin de cette scène un peu surréaliste. Et c'est cette factrice qui va vers le commerce le plus proche, qui est la fameuse pharmacie du coin de la rue, et qui rentre dans la pharmacie et qui dit tout de suite il y a une femme qui vient de se faire enlever.
Elle nous a dit que c'était trois hommes, un qui conduisait, deux hommes cagoulés à l'arrière, qui ont pris la dame et qui l'ont mis dans la voiture. Ils lui auraient mis un mouchoir ou un chiffon sur le visage, sûrement pour l'empêcher de crier. La pauvre.
Et cette femme de 76 ans qui vient de se faire enlever, ce n'est pas n'importe qui.
Les salariés de la pharmacie font le rapprochement tout de suite et savent que c'est Jacqueline Vérac puisque c'est une cliente, c'est une voisine, donc ils la voient très régulièrement. Et donc très très vite, l'alerte est donnée. Jacqueline Vérac, pour le grand public, c'est personne à ce moment-là parce que personne ne la connaît. Mais ce que certains savent à l'époque, c'est que c'est une femme très très riche qui est l'héritière d'un grand empire immobilier et hôtelier. Et donc l'affaire prend une tournure un peu différente immédiatement.
Et c'est une veuve richissime, mais qui tient aussi beaucoup à sa discrétion.
Elle a cultivé la discrétion toute sa vie, Jacqueline Vérac. Elle a effectivement hérité de son mari qui est décédé un véritable empire, on peut dire, parce qu'il y a un hôtel sur la Croisette à Cannes, un grand hôtel. Il y a un grand restaurant à Nice qui domine la baie de Nice. Et puis, il y a des biens immobiliers divers et variés. Donc, tout ça se chiffre en plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui ne fait pas les soirées people, qui fuit les paillettes, qui fuit les mondanités, dont on va en fait découvrir l'existence à travers cette affaire.
Elle avait déjà failli se faire enlever 3 ans plus tôt.
Au même endroit, exactement au même endroit et dans des circonstances qui sont quand même très très similaires, c'est-à-dire que c'est le même scénario, elle est en train de sortir de son garage avec sa voiture, elle est attaquée par plusieurs hommes, mais à l'époque des faits, cette première fois, il va y avoir 2 phénomènes qui vont faire en sorte que l'enlèvement va rater. C'est d'abord qu'elle va beaucoup se débattre et qu'elle va tellement se débattre qu'au moment de la charger dans le coffre de la voiture, les ravisseurs ne vont pas arriver à fermer le coffre parce qu'elle met volontairement ses jambes en opposition. Et puis surtout, il y a une voisine ce jour-là qui est à la fenêtre et qui a un sifflet chez elle. Et elle se saisit d'un sifflet, elle se met à siffler très très fort depuis sa fenêtre. Et les ravisseurs, entre cette victime qui se débat et ses coups de sifflet dans la rue, ils sentent qu'il faut partir et que c'est pas le bon moment et qu'ils vont se faire avoir. Donc ils prennent la fuite et donc elle se retrouve saine et sauve cette fois-là.
Et depuis cet épisode traumatisant, elle continuait de vivre assez normalement.
Elle a refusé à l'époque une protection et elle a surtout insisté pour continuer à vivre exactement comme avant. Et puis, lorsqu'on l'a questionnée à l'époque de cette première tentative d'enlèvement sur des gens qui pourraient lui en vouloir, une piste particulière, elle est restée très silencieuse, très évasive, elle voyait pas qui pouvait lui en vouloir, ce qui fait que l'enquête a périclité très vite, il n'y a pas eu de piste privilégiée, que tout ça a été classé sans suite, et que quelque part, Madame Vérac, qui voyait quelque chose de positif, puisqu'elle pouvait continuer à vivre dans cet anonymat qu'elle souhaitait.
Très vite, ce 24 octobre, la police judiciaire se mobilise pour retrouver Jacqueline Vérac. 2 heures après le rapt, son fils Gérard, qui est elle-même donc son père, est aux côtés des enquêteurs et il reçoit un coup de fil étrange passé depuis le portable de la victime.
Comme d'habitude dans ce genre d'affaires, la police judiciaire est saisie parce que c'est un enlèvement. Et le premier qui est entendu, c'est le fils. Donc il est entendu en tant que témoin dans les locaux de la police judiciaire à Nice. Et au moment où il est entendu, en pleine audition, son téléphone sonne. Il voit que c'est le numéro de sa mère qui s'affiche sur son téléphone. Et donc il décroche. À l'autre bout du fil, il y a un homme qui parle avec un très fort accent anglais et qui lui dit « Vous avez un problème ». Alors lui, il essaie, le fils, d'amorcer un dialogue avec cette personne. Mais très vite, la communication se coupe. Et on n'a plus de nouvelles. On essaie de rappeler le numéro, ça ne sonne plus, le portable semble déconnecté à ce moment-là.
Mais cet interlocuteur qu'il a brièvement en ligne, il ne lui demande pas de rançon.
Alors il lui dit, vous avez un problème, il va falloir payer, mais il ne lui donne pas de montant, il ne lui donne pas d'autres indications, pas de rendez-vous, pas de conditions, etc. Mais on n'a pas plus de précisions, on n'a pas plus d'indications, on ne sait pas à ce moment-là si Madame Vérac est vivante ou pas, on n'a pas cette précision à cet instant de l'enquête.
Les enquêteurs commencent alors à explorer plusieurs pistes. Est-ce que l'entourage proche de Jacqueline Vérac est soupçonné ?
Alors, comme d'habitude dans ce type d'affaires, les enquêteurs ils vont partir dans plusieurs directions, puisqu'il n'y en a aucune qui est véritablement évidente à ce moment-là. Donc, ils vont évidemment commencer par le plus simple, c'est-à-dire le cercle proche familial de Jacqueline Vérac. Alors, ils vont se rendre compte qu'il y a un petit souci au niveau de l'héritage entre ses enfants, que tout ça n'est pas complètement réglé, que ça fait quelques années que ça dure. C'est une piste. Après, ils comprennent pas comment un simple différend sur de l'argent peut amener des gens de sa propre famille à fomenter un tel projet. Mais enfin, c'est une piste qu'ils examinent de manière évidente dès le départ. Et puis, une autre piste qui est la piste purement crapuleuse. Et là-dessus, ils ont pas de billes à ce moment-là.
Rapidement, la police scientifique fait une découverte sous la voiture de Jacqueline Vérac.
Ils découvrent assez facilement, en fait, en dessous de la caisse, 2 balises. Qu'ils identifient très vite comme des balises de géolocalisation, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a installé ces balises sous la voiture pour suivre les déplacements de Jacqueline Vérac. Donc ça dit une chose très importante pour les enquêteurs, c'est que Jacqueline Vérac, elle était suivie depuis un moment, donc il y a un projet criminel, c'est quelque chose qui a dû être assez réfléchi, et évidemment ils vont saisir ces balises et essayer de les faire parler, entre guillemets.
Et que disent ces balises ? Est-ce qu'on arrive à retrouver la trace de quelqu'un ?
Grâce au numéro de série, ils vont remonter assez vite sur la personne qui a commandé et qui a acheté ces balises. Alors, on ne sait pas si c'est lui qui les a posées, mais en tout cas, on sait qui les a achetées. Et ils vont tomber sur un certain Luc Goursolas, qui est une personnalité locale que les policiers connaissent très 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 bien. Alors, ce n'est pas un voyou, Luc Goursolas, c'est un ancien journaliste. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de photos de faits divers, d'ailleurs, à une époque, pour le quotidien Nice Matin. Et puis qui, après, est devenu un peu paparazzi. Et puis après cette carrière de journaliste et de paparazzi, il s'était installé là depuis quelques années comme un peu comme détective privé, donc il bricole un peu, il donne des coups de main à droite à gauche, il fait un peu de filature, et puis il a une particularité, ce Luc Gourcelas, c'est que, alors il est surnommé Tintin, c'est comme ça que tout le monde le connaît dans Nice et dans sa région, et ce Tintin, il a une particularité, c'est qu'il adore les nouvelles technologies, il adore les gadgets. Donc, première chose à faire, il se met sur la trace de Gourcelas pour le suivre, pour le mettre sous surveillance, surveillance téléphonique, surveillance visuelle, c'est une filature qui va durer 24 heures sur 24, et là, ils savent qu'ils ont une piste qui tient la route.
Le 26 octobre, au matin, près de 48 heures après l'enlèvement de Jacqueline Vérac, un riverain remarque quelque chose d'anormal sur une camionnette qui est garée sur les hauteurs de Nice.
Ce matin-là, il y a un riverain qui promène son chien un petit peu comme tous les matins, qui repère cette voiture garée. Alors c'est vraiment sur les collines de Nice, c'est pas un endroit pour le coup très urbanisé, très passant, donc les gens ont l'habitude de voir un peu toujours les mêmes voitures et les mêmes personnes. Donc lui, il a l'œil attiré par cette fourgonnette, et surtout, il est d'autant plus attiré par cette fourgonnette qu'il y a une partie de la plaque minéralogique qui a été mal riveté, qui pendouille, et sous cette première plaque figure une deuxième plaque minéralogique différente.
Intrigué par la plaque d'immatriculation à moitié décrochée, ce retraité part prévenir son gendre, qui vit juste à côté.
Au moment où il s'est approché, il a entendu crier dedans, et puis c'est là où il a vu qu'il y avait la femme derrière, dans le kangou, dans l'utilitaire, quoi.
Une femme qui appelle au secours, donc il ouvre la porte, et sans le savoir, il libère Jacqueline Vérac.
Est-ce qu'elle va bien ?
On peut dire qu'elle va bien, simplement c'est quand même une femme qui a 76 ans à l'époque, qui vient de passer 48 heures à l'arrière d'une fourgonnette, quasiment sans boire ni manger pendant 48 heures, et surtout elle a eu les mains et les chevilles entravées pendant 48 heures, avec du serre-joint, des serre-flex, là, ces espèces de petits élastiques qui coupent bien la peau, et puis aussi beaucoup de scotch qui lui a été mis, y compris sur les yeux d'ailleurs, donc elle a des marques assez profondes au niveau des poignets, au niveau des chevilles, parce que ses ravisseurs ont régulièrement resserré les liens, parce qu'elle se débattait beaucoup. Et évidemment, elle est dans un état de choc bien compréhensible quand on a passé 48 heures à l'arrière d'une voiture.
Elle va ensuite raconter en détail ses deux jours de captivité. Qu'est-ce qu'elle dit ?
Alors, elle s'est concentrée depuis le moment même de son enlèvement jusqu'à sa libération sur un certain nombre de souvenirs. Elle dit, bah voilà, on a roulé 30 minutes, puis on s'est arrêté, puis on a reroulé de nouveau 30 minutes, une heure, puis on s'est arrêté encore très longtemps. Après, ce qu'elle va raconter de sa captivité de 48 heures est assez bref, parce qu'en fait, elle a eu quasiment pas de contact avec ses ravisseurs. Elle va aussi dire aux enquêteurs qu'elle a essayé à plusieurs reprises de s'échapper, ou en tout cas de se signaler, c'est-à-dire en essayant de défaire un petit peu ses liens, en tapant avec ses pieds contre la carrosserie à l'intérieur du véhicule pour se signaler, et qu'à chaque fois, ses ravisseurs sont venus non pas la frapper, mais en tout cas lui resserrer ses liens et faire en sorte qu'elle ne puisse plus se débattre.
Est-ce qu'elle a entendu des choses, par exemple ces ravisseurs qui se parlent entre eux ?
Elle a assez peu entendu de choses. Elle a simplement eu un échange très bref avec l'un d'entre eux qui conduisait la voiture, à qui elle a dû poser la question toute bête de savoir « mais qu'est-ce que vous me voulez, pourquoi moi ?» Et elle a eu une réponse assez brève de « voilà, nous on a été payés pour vous enlever, on vous a enlevé ».
La police se rend immédiatement sur le lieu de la fourgonnette abandonnée et pendant que des indices sont relevés, un autre véhicule s'approche.
Il y a une voiture qui s'approche, un espèce de petit 4x4 qui fait une manœuvre très étrange à la vue des policiers, c'est-à-dire il pile, il fait un espèce de demi-tour qui est plus ou moins raté. Donc les policiers se demandent un petit peu pourquoi ce véhicule, a priori, n'a pas tellement envie de les croiser. Et donc ils arrêtent ce véhicule, ils interpellent les personnes qui sont à l'intérieur. Ils découvrent des personnes qu'ils connaissent, alors qu'ils ne sont pas des grands voyous, mais des gens qui ont déjà eu affaire à la justice.
L'un des deux se fait appeler Ali les yeux bleus, il va intéresser les enquêteurs.
C'est un gars des quartiers de Nice, comme on dit, de l'Ariane, qui est une des quelques cités qui existent à Nice. Pas de grand banditisme, pas de braquage, pas de choses comme ça, mais un peu de stup, un peu de conduite sans permis, enfin voilà, c'est quelqu'un qui est connu mais qui n'est pas non plus d'une envergure dingue, mais comme il est interpellé sur les lieux de découverte de Jacqueline Vérac dans ces conditions un peu étranges, les enquêteurs, ils considèrent que c'est une bonne prise.
Ali les yeux bleus est interrogé en garde à vue, en parallèle les enquêteurs suivent toujours la trace de Luc Gourcelas et ils vont découvrir que les deux hommes sont en lien avec la même personne, un certain Giuseppe Serena.
Et là tout de suite ça va faire tilt dans l'esprit des enquêteurs parce que ce Serena, il a une histoire avec la famille Vérac et avec Jacqueline Vérac en particulier, et donc ça va tout de suite pour eux faire le lien entre le mobile possible et les faits qui se sont produits.
Qu'est-ce qu'on sait de Giuseppe Serena ?
Alors Giuseppe Serena, c'est un personnage assez riche. C'est quelqu'un qui est né dans un village en Italie. Après, il est arrivé sur la Riviera, dans la région de Nice. Et puis, il s'est mis en couple avec un jeune cuisinier finlandais. Ils ont monté un premier restaurant sur la ville de Nice qui marchait plutôt pas mal. Le cuisinier était plutôt talentueux et Serena était un peu le monsieur loyal du restaurant, le monsieur qui faisait l'accueil, etc. Et c'est là, en fait, qu'il rencontre Jacqueline Vérac, qui est cliente de ce restaurant, qui vient manger là régulièrement, qui trouve ça très bien. Et donc, elle propose à Giuseppe Serena et à son compagnon cuisinier de prendre la gérance de la réserve et de remonter, de redonner du prestige à ce restaurant-là. Et donc Serena, qui est toujours à l'affût des affaires plus ou moins bonnes, accepte évidemment tout ça et se met sur le projet de la réserve avec Jacqueline Vérac. Et c'est là où on va comprendre que c'est quelqu'un qui a un vrai, vrai problème avec la gestion.
Oui, parce qu'à cause de lui, en 2009, le restaurant de Jacqueline Vérac se retrouve en très grande difficulté.
Dans un premier temps, il va demander à Madame Vérac d'investir massivement. Tout démarre plutôt pas mal, la clientèle adhère au projet. Simplement, Serena, il a vu beaucoup trop grand, c'est-à-dire qu'il ne paye pas les fournisseurs, il ne paye pas très bien ses employés, il oublie de les payer à la fin du mois, les factures, les dettes s'accumulent, et puis très vite, au bout de 2-3 ans, eh ben, le restaurant il est en cessation de paiement, c'est-à-dire qu'il faut mettre la clé sous la porte, et qui éponge à ce moment-là? Ben, c'est Jacqueline Vérac. Serena n'est que le gérant de ce restaurant, et donc c'est là que naît la brouille profonde entre les deux.
Et donc, selon la police, il aurait cherché à se venger.
Disons que ça fait un bon mobile. On le soupçonne d'être derrière la première tentative d'enlèvement, celle qui a été ratée, parce qu'elle colle dans les dates un petit peu juste après ses problèmes avec Madame Vérac. Et puis, évidemment, là, dans ce nouvel enlèvement qui, lui, a été réussi, il est évidemment tout de suite soupçonné parce qu'il a ce mobile-là et parce qu'il y a tout un tas d'éléments que vont découvrir les enquêteurs qui le mouillent encore plus dedans. Serena, qui pourtant n'a pas un sou devant lui et est interdit de gérer, s'est lancé dans l'achat du Coco Beach, qui est une plage à Nice. Et en gros, il a comme deadline la fin du mois d'octobre. Et on se dit, bah tiens, il y a une brouille profonde entre les deux. Il doit donner beaucoup d'argent s'il veut acheter ce fameux restaurant. Enfin, tout ça commence à quand même faire un tableau qui est assez lourd pour lui, quoi.
Il est arrêté seulement quelques heures après qu'on ait retrouvé Jacqueline Vérac. Qu'est-ce qu'il dit en garde à vue ?
Il n'est pas tout seul quand il est arrêté. Il est arrêté avec Luc Goursolas, le fameux Tintin, et avec un troisième homme qui s'appelle Philippe Deton, qui est un Anglais. Et Serena, bah, il nie, quoi. Il dit qu'il a rien à voir là-dedans, il comprend pas ce qu'il fait là. Bon, voilà, il est dans une position de quelqu'un qui dit qu'il n'a rien à se reprocher, qui ne sait pas trop pourquoi on lui pose toutes ces questions.
Mais ses complices vont le dénoncer.
Bah, ils font le calcul sans doute de se dire là, il faut qu'on parle parce qu'il y a des éléments lourds contre nous. La situation est quand même suffisamment grave. Et effectivement, ils commencent à expliquer un certain nombre de choses, que c'est Serena qui a recruté un petit peu toute l'équipe et qui effectivement avait cette vengeance à assouvir vis-à-vis de Madame Vérac. Et puis en plus de la vengeance, on pouvait récupérer beaucoup d'argent.
Damien Delceni, à partir de là, les enquêteurs vont tenter de reconstituer le casting de cet enlèvement et ils découvrent que beaucoup de personnes sont mouillées dans cette affaire.
Effectivement, on va découvrir autour des exécutants qui sont là vraiment uniquement eux sur commande. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, vous, votre rôle, c'est d'aller enlever une personne à telle adresse. Donc les policiers vont reconstituer un peu tout cet univers qui donc fait une petite quinzaine de personnes au total, entre le cerveau, le penseur de tout ça, ses complices très proches, et puis des gens qui sont vraiment des soldats, entre guillemets, et qui sont là avec des missions bien précises pour l'enlèvement et après pour la surveillance de Madame Vérac pendant la séquestration.
Et ce qui est étonnant, c'est aussi le lieu où s'est scellé l'accord pour préparer justement l'enlèvement de cette milliardaire.
C'est-à-dire qu'au départ, il y a une autre personne encore dans la galaxie de Serena, qui est un autre Italien, qui s'appelle Fontanella, qui devait faire partie du projet. Sauf que Fontanella, il doit se faire amputer d'une jambe. Donc il est opéré, on lui retire cette jambe, et il se retrouve dans une espèce de centre héliomarin pour sa rééducation, qui est sur les hauteurs de Cannes. Et en fait, Fontanella, qui est hospitalisé dans ce centre de rééducation, va faire la connaissance de personnes qui viennent effectivement de la cité de l'Ariane, qui eux-mêmes ont des problèmes de santé. Et un jour, Serena vient voir Fontanella et Fontanella lui dit « j'ai trouvé quelqu'un pour me remplacer, quelqu'un qui fera l'affaire pour ton histoire ». Et effectivement, c'est dans un centre de rééducation où les gens sont censés réapprendre à marcher que va se décider quelque part la constitution finale de l'équipe qui va enlever Jacqueline Vérac.
Est-ce qu'on a su combien Giuseppe Serena demandait pour l'enlèvement de Jacqueline Vérac ?
Alors la rançon, ça a été un aspect mystérieux du dossier jusqu'à ce qu'on découvre la raison de ce mystère. Et en fait, le mystère, il est dans le portable. Ils ont écrit par texto le montant de la rançon, qui était de 600 000 euros. Ce texto, pour une raison technique, il n'est jamais sorti du téléphone. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été envoyé au fils Vérac. C'est un des bugs techniques assez nombreux de cette affaire.
Damien Delceni, ils étaient nombreux à avoir participé de près ou de loin à cet enlèvement, et pourtant, on peut dire qu'ils ont montré un certain amateurisme.
C'est un peu le Canada Dry, si vous voulez, c'est à tous les aspects du grand banditisme, mais c'est pas du grand banditisme. Il y a une préparation qui peut être une préparation un peu professionnelle, Mais après, les acteurs eux-mêmes sont pas des professionnels. En fait, là, on sent que Serena, il est muet par une volonté terrible de se venger et que quelque part, ça l'aveugle à un moment donné. C'est-à-dire qu'il a tellement envie de se venger que, voilà, il en oublie un certain nombre de précautions. Enfin, ça ressemble à une équipe de pieds nickelés qui s'est mis dans un projet très construit, mais il n'y avait pas les fondations et il n'y avait surtout pas les bons maçons pour que cette maison, elle tienne, quoi.
Merci à Damien Delceni. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Il est disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Nathan Châtelain, Ambre Rosala et Raphaël Pueyo. À la réalisation, Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcast ou Google Podcast. Et puis dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire codesource@leparisien.fr.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.